Rwanda, 1994-2014, 20 ans après le génocide des Tutsis, comprendre une histoire franco-rwandaise. C'est un cycle de rencontres et projections proposé par différentes associations à Marseille, dont l'Équitable Café. Et c'est à l'Équitable Café que nous avons rencontré Laure de Vulpian, journaliste à France Culture. Elle y a parlé du rôle de la France pendant l'opération turquoise. Elle a publié un ouvrage avec Thierry Prugnot, ancien membre du GIGN, Silence turquoise, publié aux éditions Don Quichotte. Alors l'opération turquoise est une opération militaire française qui a lieu du 22 juin 1994 au 22 août 1994 pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais en fait, la présence militaire de la France au Rwanda commence bien avant cette opération, bien avant le début du génocide qui lui commence le 6 avril. En fait, la France débarque d'une certaine manière au Rwanda, militairement en tout cas, dès 1975. Laure de Vulpian.
Alors la France, elle débarque, comme vous dites, au Rwanda, sans armée d'abord, en 1962, au lendemain de l'indépendance, quand la Belgique, qui est le colonisateur, donne son indépendance au Rwanda. La nature ayant horreur du vide, la France se dit, il y a une place à prendre, il faut garder ce pays dans le giron de la francophonie, dans la France-Afrique. Ça, c'est 62. En fait, avant que ça devienne militaire, il y a une première étape qui est 1975. C'est les premiers accords de coopération militaire qui sont signés par Valéry Giscard d'Estaing. Et il y a une coopération militaire très ordinaire, comme il y en a avec plein de pays d'Afrique et d'ailleurs. Là où ça commence, c'est le 1er octobre 1990, quand le FPR, Front Patriotique Rwandais, constitué pour l'essentiel d'exilés Tutsis ayant fui les massacres précédents. Parce qu'il faut savoir que depuis 1959, les Tutsis sont discriminés au Rwanda. Il y a un racisme anti-Tutsi qui est un racisme d'État. Donc, en 1990, 1er octobre, le FPR, constitué de ces exilés qui ont grandi à l'étranger et en fait en Ouganda, pays voisin, ces Tutsis se sont constitués en parti politique et en armée et ils attaquent le Rwanda. Ils entrent au Rwanda militairement et c'est le début de la guerre civile. Et dès le 5 octobre, c'est-à-dire 4 ou 5 jours après, l'armée française est déjà présente. C'est-à-dire que François Mitterrand, qui est le président de la République, donne son accord à son ami, le président rwandais Habyarimana, pour lui envoyer une ou deux compagnies qui vont l'aider dans sa lutte contre les rebelles du FPR. Donc là, on est déjà dans l'engrenage qui va se mettre en place et qui va être d'une certaine manière fatal et qui va conduire au génocide. Alors, non pas de la faute de la France, je veux dire, le génocide est clairement l'œuvre des Rwandais. Il est pensé par les Rwandais, il est conçu par les Rwandais. Après, est-ce que la France a eu un rôle ? C'est toute la question. C'est tout ce qui se débat là depuis quelques jours, depuis 15 jours, autour des déclarations du président rwandais Paul Kagame et des dénégations de la France depuis.
Pourquoi avoir focalisé le travail sur l'opération turquoise, hein, qui est une opération qui va du 22 juin au 22 août, alors que le génocide commence le 6 avril 1994, il se termine fin août, et qu'avant l'opération turquoise, comme vous le disiez, la présence militaire française est déjà en place, et il y a un certain nombre d'opérations, par exemple l'opération française Amaryllis au mois d'avril, début avril. Alors, qu'est-ce qui se passe de précisément avec cette opération turquoise ?
Alors, d'abord, moi je me suis focalisée sur cette opération turquoise parce que J'avais rencontré Thierry Preugneau, ce gendarme du GIGN qui avait fait Turquoise. Donc, il est le premier militaire de Turquoise à témoigner de l'intérieur et à dire « moi j'y étais, moi j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai vu ça, etc. » Donc déjà en soi, c'est le point de départ. J'ai pas travaillé sur Amaryllis parce que Amaryllis, c'est pas que ça pose pas de problème Amaryllis, mais Amaryllis, c'est une opération d'exfiltration des expatriés français et occidentaux. Et donc ça dure 5 jours, du 9 au 14 avril. Donc c'est pas bien ce qui s'est passé pendant Amaryllis parce que les consignes c'était surtout de ne pas prendre un seul Rwandais et surtout pas un seul Tutsi. On a quand même, l'armée française a quand même évacué la famille Abiyarimana et toute la parentèle, etc. et quelques concepteurs du génocide. Mais un seul Tutsi de l'ambassade de France a été évacué, pas les autres. Ils ont été laissés sur place et certains ont eu à en perdre. Par exemple, Vénus Kaïmaé a perdu une de ses filles dans le génocide. Donc, bon, Amaryllis, un jour peut-être il y aura une plainte. Donc, moi je m'intéresse à Turquoise parce que j'ai le témoignage de Thierry. En plus, il y a une plainte judiciaire qui a été déposée par 6 Rwandais du Rwanda en 2005. Contre des militaires français pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Ça, c'est énorme. Ça ne s'était jamais vu. Et donc, c'est ça qui, finalement, motive le fait que je me sois intéressée à l'opération Turquoise. Et par Thierry, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait matière au minimum à s'interroger.
C'est un témoignage isolé ou est-ce qu'il est recoupé avec d'autres témoignages ?
Alors, effectivement, dans le titre, enfin, parmi les auteurs, il y a juste Thierry et moi. Mais pour reconstituer exactement tout ce qui s'est passé, j'ai eu accès à plusieurs militaires. Les autres sont restés anonymes à leur demande. Hein, donc, je ne vais évidemment pas dire leur nom. Il y en a un qui revient très souvent, qui est prénommé Philippe. Et on n'en saura pas plus concernant son identité, mais j'ai eu moi accès à plusieurs sous-officiers de l'opération Turquoise et donc tout est patiemment recoupé. Ça a été long de reconstituer l'agenda du début de Turquoise. En fait, le livre il porte sur les 10 premiers jours de Turquoise qui sont les jours les plus problématiques.
Quelle a été la mission de Turquoise exactement, officiellement ?
Alors officiellement, c'était une mission humanitaire. On ne pouvait même pas employer le mot de militaire. Mission humanitaire, il fallait aller secourir, protéger les personnes menacées. On n'a jamais dit qui étaient les personnes menacées. Ça, c'est la première ambiguïté de Turquoise. Turquoise n'est pas, au sens propre, une opération française, officiellement. C'est une opération menée sous mandat de l'ONU, décidée par le Conseil de sécurité, le 22 juin 1994. Mais, en fait, c'est la France qui l'a proposé, c'est la France qui a rédigé le mandat et c'est la France qui a commandé l'opération. Aujourd'hui, elle ne dit plus que c'était une opération internationale. Elle le disait au début, mais c'est tellement ridicule qu'elle ne le dit plus, parce qu'en fait, il y avait quoi ? Il y avait peut-être 50 militaires d'autres pays d'Afrique, des pays de la France-Afrique, hein, qui étaient un peu obligés d'envoyer des hommes. Alors, ils n'étaient peut-être pas 50, ils étaient peut-être 100 ou 200. Ils sont arrivés à mi-chemin de Turquoise, hein, au bout d'un mois à peu près, et de toute façon, c'était vraiment un alibi. Donc, en fait, quoi qu'en disent aujourd'hui les officiels, l'opération Turquoise, on peut dire que c'est une opération française. Et le fait qu'il y ait eu le mandat de l'ONU, ça sert de couverture à la France. Parce qu'au tout début de Turquoise, juste avant Turquoise, il y a quand même beaucoup de voix qui se sont élevées en France, des voix des ONG, des associations, de certains politiques, etc., pour dire, mais attendez, pas la France. La France est le pays le plus mal placé pour y aller. C'est le pays qui était aux côtés de l'armée régulière rwandaise, l'armée qui finalement, en partie en tout cas, commet le génocide. Bon, et en plus, cette opération turquoise, elle intervient très tard, puisqu'elle intervient quasiment au 80e jour du génocide, et il a duré 100 jours. Donc vous voyez, je veux dire, le mal était fait. Et le fait qu'on ne dise pas « on y va pour sauver les Tutsis qui survivent », mais « on y va sauver des personnes menacées », ça a permis des dérapages bon, qu'il faudra un jour éclaircir.
Et alors, est-ce d'après les témoignages que vous avez pu recueillir, qu'est-ce qu'il en ressort quant finalement au rôle réel dans les faits de cette opération turquoise au moment donc de ce génocide ?
Alors, moi, comme je vous le disais, je ne balaye pas toute l'opération turquoise, mais simplement les 10 premiers jours, et je me centre sur un épisode emblématique qui a le nom d'un lieu qui s'appelle Bicesero. C'est un endroit très particulier qui, de tout temps, quasiment, a été un lieu de refuge pour les Tutsis quand ils étaient menacés. Alors, Bicesero, ça se trouve près de Kibuye. La zone turquoise, elle est dans le sud-ouest du Rwanda, adossée au lac Kivu et au Zaïr. Et donc, Kibuye, c'est l'extrême nord de la zone turquoise. Bicesero est pas très loin, mais disons que quand même en 4x4, il faut quand même une petite heure pour y aller. À cet endroit-là, au plus fort du génocide, donc disons fin avril, 50 000 Tutsis étaient réfugiés là. Ils étaient venus de toute la région pour se réfugier sur c'est des montagnes. En fait, à cet endroit-là, ce n'est pas des collines comme partout ailleurs au Rwanda, c'est beaucoup plus escarpé. Et donc, ils étaient 50 000. Au mois de mai, il y a eu une énorme attaque. Et donc, beaucoup ont été tués. Et finalement, quand Turquoise commence fin juin, il ne reste plus beaucoup de Tutsis. Il en reste 2 000 le 27 juin. 2000 Tutsis ont survécu sur les 50 000. Et des militaires français ont entendu dire qu'il y a encore des massacres à Bicesero par des religieuses, par des prêtres, par des témoins. Et donc, un des officiers de Kibuye, qui s'appelle Diego, c'est son pseudo, décide de partir en reconnaissance à Bicesero. Et après tout un tour, il s'est perdu, etc. Il arrive à Bicesero et il tombe effectivement sur des survivants. Et il comprend que ces gens sont dans un état catastrophique et qu'ils risquent d'être massacrés. D'ailleurs, les survivants lui montrent des miliciens qui sont embusqués et qui sont prêts à leur foncer dessus pour les tuer. Malheureusement, à ce moment-là, 27 juin, Turquoise en est à son 4e jour. Et il y a d'énormes problèmes logistiques. Diego, par exemple, n'a pas de voiture. Il a dû emprunter des voitures, des véhicules aux bonnes sœurs qui l'hébergent dans leur paroisse, là, leur couvent, pour monter à Bicesero. Donc, il dit, écoutez, désolé, pour l'instant, on ne peut rien pour vous, mais ne vous inquiétez pas, je vais alerter, on va recevoir du matériel et on va venir vous secourir dès qu'on va pouvoir, à peu près dans 3 jours. Les Tutsis sont désespérés, ils se disent que puisque les miliciens sont là, puisqu'ils se sont montrés...
Oui, 3 jours, c'est une éternité, quoi.
Voilà. Bon, mais ils n'y peuvent rien. Diego s'en va avec sa patrouille d'une douzaine d'hommes et eux, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer.
Est-ce que l'information remonte ?
Alors, l'information... Est-ce que le 27, Diego a rendu compte ? Alors ça, c'est quelque chose que j'apporte. J'en apporte la démonstration dans ce livre. Et vraiment, ça, j'y tiens dur comme fer. Les responsables de l'opération turquoise, le général Lafourcade et le colonel Rosier, affirment qu'ils n'ont jamais reçu le compte-rendu de Diego. Diego a écrit un compte-rendu. Il l'a envoyé, ils l'ont reçu. Alors, ce compte-rendu est perdu, soi-disant. Il a disparu des archives militaires. Simplement, il a certainement été retiré et détruit. Mais il y a une pratique dans l'armée. Comme nous, aujourd'hui, avec Internet, on forward nos messages quand on veut les faire connaître à d'autres. Et bien, eux aussi, à l'époque, leurs fax, ils les réexpédiaient avec 48 heures de décalage à d'autres officiers, à d'autres détachements. Et c'est comme ça qu'on sait que ce compte-rendu de Diego, en date du 27 juin, a bien existé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours? Pourquoi l'état-major de Turquoise et pourquoi l'état-major à Paris n'a pas donné l'ordre d'aller secourir ces 2000 personnes? Il n'en restait plus que 1000 le 30 juin, c'est-à-dire en trois jours, 1000 sont morts. C'est ça, Bicicero. C'est, on n'a pas fait ce qu'il fallait quand il fallait, et ça a causé la mort de 1000 personnes qui avaient réussi à survivre. À quel prix? Mais il faut essayer d'imaginer. Pendant presque 3 mois. C'est extraordinaire.
Donc là, c'est un cas, en tout cas, de laisser faire.
Alors, au minimum, laisser faire. Je veux dire, soit c'est de l'abstention. Mais après tout, il y a aussi un message du général Lafourcade auquel on a accès, et lui-même d'ailleurs naïvement l'a publié dans le livre qu'il a écrit en 2010, je crois. Ce message, qui date du 27 juin à 23h, dit, il y a trois scénarios possibles, soit on y va tout seul, soit on y va avec des Rwandais Hutus, soit, et tenez-vous bien, je cite, ne rien faire et laisser les massacres se perpétrer dans notre dos. C'était une citation. Ne rien faire et laisser les massacres se perpétrer dans notre dos. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, on ne sait pas s'il y a eu une réponse à ce fax que Lafourcade a envoyé à Paris. De toute façon, cette réponse-là n'a pas été déclassifiée. Donc quand on nous dit aujourd'hui tout a été déclassifié, c'est faux. Quand on nous dit aujourd'hui circuler, il n'y a rien à voir, c'est faux. Il y a encore des choses à découvrir.
Dans le petit programme Rwanda 1994-2014, 20 ans après le génocide des Tutsis, comprendre une histoire franco-rwandaise, donc dans ce programme, on peut lire cette phrase: dans ces pays-là, un génocide, c'est pas trop important. C'est une phrase, une confidence de François Mitterrand rapportée par le journal Le Figaro le 12 janvier 1998. En définitive, ce que vous nous racontez, cela traduit bien cette phrase de François Mitterrand.
Exactement, exactement. Je veux dire, je vais vous donner juste une opinion. Moi, il me semble que c'était pas très important parce que c'était des Africains, parce que c'était un tout petit pays, parce que c'était loin de tout, parce que à l'époque on pouvait faire ce qu'on voulait, l'Élysée avait les coudées franches pour envoyer l'armée n'importe où, faire pas forcément n'importe quoi, mais faire un petit peu ce qu'elle voulait, sans contrôle parlementaire, etc. Alors aujourd'hui, c'est différent. Le Mali, la Centrafrique, ce sont des opérations qui se déroulent au grand jour. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites. Hein. Je n'en sais rien et je ne travaille pas là-dessus, donc je m'abstiendrai de tout commentaire. Mais en tout cas, à l'époque, au début des années 90 et singulièrement en 1994, je veux dire, la France et le pouvoir français étaient singulièrement aveugles et probablement racistes.
Les procès ouverts, 2013, donc plainte déposée contre Paul Baril pour complicité de génocide, 2014, premier procès d'un présumé génocidaire en France. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver assez rapidement à un éclaircissement de ce qui s'est réellement passé et de l'implication de la France, ou est-ce qu'on va rester encore dans ces zones obscures pendant très longtemps?
Moi, je pense qu'on va rester encore longtemps dans ces zones obscures. On nous dit que la mission qui laisse en 1998, a déjà tout fait, tout dit. Il y a des gens qui demandent une commission d'enquête parlementaire maintenant pour achever, entre guillemets, la mise à plat. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de réelle mise à plat. Je pense que ça va être noyauté et étouffé. Je pense que tant que certaines personnes seront encore en vie parmi les anciens responsables politiques et militaires, on n'aura pas la vérité. Et donc je pense qu'il va falloir attendre 10 voire 20 ans avant de savoir vraiment ce qui s'est passé.
Laure de Vulpian, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste à France Culture. Vous avez donc rédigé cet ouvrage Turquoise, Silence Turquoise, un ouvrage donc co-rédigé avec Thierry Prugnan, qui est ancien membre du GIGN. Laure de Vulpian, merci beaucoup.
Merci à vous.
Publication des résultats de l'enquête menée sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994, la commission a été on ne peut plus claire. La France était bel et bien au courant des préparatifs du génocide. Elle a même participé à sa mise en exécution selon ce rapport.
Laisse-moi t'exprimer, yo, laisse-moi dénoncer, yo. Un génocide qu'on nous a caché et négligé. J'aborde un sujet qui implique notre responsabilité. J'accuse pour commencer mon pays, la France, d'avoir laissé les gens mourir sans assistance. D'avoir soutenu le régime génocidaire en envoyant sur place beaucoup de militaires. Ils n'ont pas cherché à protéger les civils. Comment veut-nous le faire croire dans nos villes? Ne me fais pas croire qu'avec nos services secrets, qu'on ne savait pas que le génocide rwandais était préparé soigneusement bien avant. Donc on pouvait l'arrêter et pourtant on a plutôt essayé de couvrir nos arrières. Je dirais plutôt l'économie financière.
Je suis près de vous, peuple rwandais. Ma voix résonne pour les rescapés. J'pense à ces enfants morts innocents. J'pense aux femmes violées. J'ai besoin de pleurer.
Mes larmes ont séché, tellement j'ai pleuré. J'entends encore les gens dans ma tête crier. Comment peut-on laisser les gens mourir ainsi? Non, non, ça c'est pas la vie. On n'est pas comme ça non plus, jamais ça. Je l'ai déjà entendu, maintes fois. Y'a pas si longtemps que les Juifs étaient victimes d'un génocide que personne ne sous-estime. Alors je ne comprends pas comment ceci a pu se reproduire dans ma vie. Il aura fallu 100 jours, assez autour, pour massacrer 1 million de Tutsis. Mais c'est fou. Qu'a fait l'ONU pendant tout ce temps? Qu'a fait la France pendant tout ce temps? On leur a pas mis les machettes dans les mains. Y'en a qui me disent ça, qui se disent humains.
Je suis près de vous, peuple rwandais. Ma voix résonne pour les rescapés. J'pense à ces enfants morts innocents. J'pense aux femmes violées. J'ai besoin de pleurer.
La mort d'un Africain ne compte pas pour un Occident. La mort des Tutsis n'était pas très importante vis-à-vis des enjeux du gouvernement. France est présidée par François Mitterrand en coalition avec Balladur, Alain Juppé. Ils refusent aujourd'hui leurs responsabilités parce qu'ils sont encore dans le circuit politique. Ils veulent garder une bonne image et rester médiatique. Les journalistes sont d'abord leurs alliés. Ils ont fait les mêmes écoles pour se partager le pouvoir de se couvrir et mal nous informer. J'accuse les journalistes d'avoir caché la vérité. Les gens sont morts pendant qu'on avait les bras croisés. Aujourd'hui j'ai honte d'être français. On attend que la France s'excuse auprès des Rwandais. Les faits sont là, la France est bien appliquée.
Je suis près de vous, peuple rwandais. Ma voix